de suite. Et je pense que vous m'entendez bien, n'est-ce pas? J'ai pas de retour, mais c'est bon, merci. Alors, j'ai pas besoin de pousser ma voix, n'est-ce pas? Vous m'entendez bien. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Alors ce n'est pas seulement ici les caractéristiques d'un disciple. Ici on voit que c'est clairement renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre le Seigneur Jésus. On y reviendra dans un moment. Mais par exemple, en Jean chapitre 8 et au verset 31, le Seigneur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, » il dira à ceux qui crurent, les Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Une marque de quelqu'un qui aime le Seigneur, qui grandit, c'est de demeurer dans la parole. Et pour cela, il faut l'étudier, la méditer, la croire et la mettre en pratique. Un deuxième aspect, on voit en Jean 13, là où Jésus, au moment où il commence un ministère, plus particulièrement envers ses disciples, dans les 12 premiers chapitres, Jésus a un ministère public. À partir du chapitre 13, il resserre son ministère envers ses disciples, afin de les préparer à son départ. Alors il resserre les liens avec ses disciples et particulièrement les apôtres et il leur montre une façon de pratiquer l'amour. C'est il leur lave les pieds. Il leur montre que le vrai service chrétien doit être motivé par l'amour et l'humilité. Et c'est à ce signe que vous le reconnaîtrez. Vous voyez comme il s'aime. Jésus a voulu apprendre à ses disciples que une marque essentielle de la vie de disciple, c'est des disciples, c'est de s'aimer les uns les autres. Alors, chaque caractéristique ici, bien sûr, peut être l'objet d'un message, et j'ai toute une série là-dessus, mais on va regarder particulièrement cet après-midi la caractéristique qui est renoncer à soi-même. Et puis, en Jean 14, Jésus a dit qu'on doit, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui aime Jésus par-dessus tout. Alors, ça veut dire par-dessus toute personne, toute chose, toute activité. Et puis un peu plus loin, il dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. C'est l'idée de renoncer, c'est-à-dire de ne pas faire de ce que l'on possède une priorité, mais d'être prêt à tout abandonner pour le Seigneur, sachant que le meilleur bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner, tout abandonner, mais en tout cas, le tout qui semble être le nôtre n'est rien devant Dieu, et ce tout devient rien lorsqu'on le donne à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et ensuite, en Jean 15, il y a bien sûr ce chapitre extraordinaire qui montre notre dépendance en tant que disciple envers Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, où Jésus dit « Je suis le vrai sarment, et vous êtes les sarments. » Et en fait, le disciple est appelé à porter du fruit, à porter encore plus de fruits, et ensuite à porter beaucoup de fruits pour glorifier Dieu le Père. Le disciple est appelé à porter beaucoup de fruits. Et en Marc 8, nous avons lu qu'un disciple renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alors ce n'est pas d'avoir une croix autour du cou, c'est porter les souffrances liées à la persécution du témoignage. On n'a pas le temps de regarder cela cet après-midi. Et qu'il me suive, c'est suivre Jésus dans les traces que lui-même a laissées sur la terre, des traces de dépendance avec Dieu le Père, des traces d'amour, des traces de bonté, de consécration totale, jusqu'à la mort de la croix. Mais cet après-midi, je vous propose de regarder un petit peu ce que c'est que de renoncer à soi-même, et on essaiera de répondre à deux questions, pourquoi renoncer à soi-même et comment renoncer à soi-même. Mais avant, j'aimerais faire une remarque. Cette remarque est que souvent dans l'Église, nous les croyants, on se dit chrétiens. chrétien, voilà, on est de nouveau, voilà, on appartient à Jésus-Christ, on est des chrétiens. Qui veut dire d'ailleurs comme Christ, petit Christ. Et puis, ceux qui sont plus consacrés, on a tendance à utiliser un vocabulaire différent, on dit oui, c'est un chrétien consacré, c'est un disciple. Et donc, on fait une distinction entre le chrétien, le chrétien en général, et puis le disciple. Et on cherche dans l'Église à avoir des disciples. Alors, quelle est la pensée du Seigneur par rapport à cela? Dieu n'a jamais fait une catégorie de croyants. Il n'a pas voulu qu'il y ait deux catégories de croyants dans l'Église. Les chrétiens ordinaires, excusez le terme, hein, on ne trouve pas ça dans la Bible, chrétiens ordinaires, et puis les disciples. En fait, ce sont des non-chrétiens qui, voyant vivre les disciples, qui s'appelaient eux-mêmes disciples, élèves de Jésus, à Antioche, ce sont des non-chrétiens qui ont tellement vu la vie de Jésus, ou qui des disciples qui collaient tellement à la doctrine de Jésus, qu'ils ont dit, ce sont des chrétiens, des petits Christ, des comme Christ. Alors la question est de savoir si nous, en tant que disciples, le mot chrétien n'existait pas. Est-ce que les gens du monde inconvertis verraient dans nos vies tellement la personne de Jésus qui nous appellerait des petits Christ, des comme Christ? Ils ressemblent tellement à leur Seigneur qu'ils aiment, on va les appeler chrétiens. Ça c'est une bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le mot chrétien ne se trouve que 3 fois dans le Nouveau Testament. Tandis que le mot disciple se trouve 276 fois. Et donc Dieu nous appelle à être des disciples, des chrétiens, on se comprend. Ça c'est notre nom si vous voulez, mais notre vie doit ressembler à celle du disciple tel que décrit par le Seigneur Jésus. Pas simplement ce qu'on pense devoir être la vie de disciple, mais selon les normes du Nouveau Testament. Et il faut dire alors qu'on est obligé de s'humilier. Parce que devant les normes de Jésus, et selon sa parole, la vie de disciple est exigeante. Mais s'il exige de nous le tout, qui n'est en rien qu'on lui donne en fait, c'est parce que lui-même a tout donné. Et donc en échange, il s'attend à ce qu'on donne sa vie, comme Dieu disait à Salomon dans les Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Alors dans quelle mesure donnons-nous vraiment notre cœur au Seigneur Jésus en échange de ce qu'il a fait pour nous? Alors, qu'est-ce que veut dire le mot « disciple » ? Ça vient d'un mot grec, d'un nom, qui est issu lui-même d'un verbe qui signifie « apprendre »,« étudier ». Donc, le disciple de Christ, c'est un étudiant à l'école de Jésus-Christ, qui a pour maître une seule personne, Jésus-Christ, qui est enseignable, et quelque part, j'ajouterai, qui est prêt aussi à apprendre du maître, mais aussi capable d'enseigner les autres. Vous savez, on a une carte, souvent, à la fin de notre Bible, on a des cartes d'Israël. Et si on regarde la géographie d'Israël, il y a la mer de Galilée, proche de l'Hermon, avec l'eau vive, n'est-ce pas, des montagnes qui descendent dans la mer de Galilée, et où la pêche est abondante. Et même parfois, elle a été miraculeuse. Et puis quand on va à la mer Morte, par contre, ben, le taux de sel est tellement élevé que même on peut y s'y dresser debout. J'ai fait l'expérience en Jordanie d'aller dans la mer Morte et de me tenir debout parce que je l'avais vu sur une revue. Je me dis, mais est-ce possible de se tenir dans l'eau sans s'enfoncer? Ah ben oui, figurez-vous, c'est possible. Maintenant, il ne faut pas s'asperger sur tous les yeux, sinon c'est gravissime. Mais la mer Morte qui est morte, puisque... à part quelques touristes qui ont la folie d'aller faire un bain de sel, je dirais. Et d'ailleurs, il y a des ophtalmos du côté d'Israël, paraît-il, qui sont toujours là, prêts à soigner ceux qui ont la bêtise de s'asperger ou de jouer à s'enfoncer dans l'eau. C'est grave pour les yeux. La mer Morte, paraît-il, en son fond, est riche de milliards de dollars, de minéraux qui pourraient être évalués comme ça, de milliards de dollars. Et pourtant, c'est inexploité. Alors, la mer Morte est celle qui reçoit du Jourdain toute l'eau qui vient de la Galilée, qui elle-même vient de la source. La mer de Galilée est abondante et elle est généreuse. Elle donne constamment, par le Jourdain, n'est-ce pas, cette eau qui va aller jusqu'à la mer Morte. Bon, c'est vrai qu'on est un peu déçu lorsqu'on va au Proche-Orient. On s'imagine le Jourdain un grand fleuve et en fait, ça devient un petit Rubicon, hein. Aujourd'hui, la vallée du Jourdain et le fleuve du Jourdain, c'est à cause de l'arrosage, etc. C'est un tout petit parfois même ruisseau. Ceci dit, la mer de Galilée donne. Et la mer morte est toujours en train de recevoir. C'est comme si elle disait donne, donne, donne. Elle fait que recevoir, mais à part quelques visites de touristes, elle n'est pas exploitée, elle ne donne rien. Et je pense que cet après-midi, nous devons vraiment réfléchir au vrai sens de la vie du disciple qui est enseignée pour donner aux autres. La mère de Galilée donne tout ce qu'elle peut parce qu'elle reçoit. Alors c'est vrai que le Jourdain, 400 mètres en dessous du niveau de la mer, arrive à la mer morte et c'est mort. Et je pense qu'on doit évaluer nos vies jusqu'à savoir à quel point notre vie porte du fruit et si nous vivons vraiment pour les autres. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ma vie est telle qu'elle porte du fruit parce que Christ vit en nous? Est-ce que nous le laissons pleinement vivre, cette vie, et ça prend un cœur de disciple? C'est ce que j'aimerais vous montrer cet après-midi au travers donc de ce texte, et particulièrement renoncer à soi-même. Alors j'ajouterai qu'un disciple, c'est quelqu'un qui s'attache à une personne, à son maître, son enseignement, il devient son adepte, il marche à sa suite, lui voue une fidélité exclusive. Je pense au verset qui dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a placé en nous, qu'il est jaloux de l'esprit qu'il est en nous. Alors on ne s'appartient plus à soi-même. Et dans certains cas, on voit que le disciple est appelé à abandonner son confort, son foyer, ses biens, sa situation, pour partager la destinée du maître et finalement être prêt à mourir pour son maître. On voit vraiment que les exigences du Seigneur sont élevées. Alors, la question que nous laisse, je pense, à réfléchir cet après-midi le Seigneur, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à nous donner au Seigneur? Non pas selon les critères qu'on évalue, peut-être même par rapport à notre église, nos amis, les autres chrétiens, mais selon les normes de Jésus-Christ. Donc je vous invite à regarder avec moi quelques-unes de ces normes au travers de la caractéristique et renoncer à soi-même, c'est que nous pourrons voir que cela cet après-midi. Au travers donc de deux réponses, esquissé à deux questions, pourquoi renoncer à soi-même et comment renoncer à soi-même. Littéralement, on pourrait traduire renoncer à soi-même par se renier soi-même. La première réponse, je pense, qui m'est venue à l'esprit, c'est que le disciple renonce à lui-même parce qu'en fait, il ne s'appartient plus à lui-même. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très populaire, n'est-ce pas ? J'appartiens à quelqu'un d'autre. Ça inclut la soumission. Et ça me fait penser au verset, en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été racheté en grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, ce même esprit qui se mouvait lors de la création des cieux et de la terre, ce même esprit nous habite et même la Bible dit que nous en sommes scellés. Notre corps ne nous appartient plus et notre esprit qui est le réceptacle de l'Esprit de Dieu, quelque part, ne nous appartient plus. C'est pour ça que Paul dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ». Pourquoi est-ce qu'on ne s'appartient plus? Parce que nous étions vendus au marché de l'esclavage du péché. Nous étions prisonniers de nous-mêmes, de notre péché et du diable et des ténèbres. Et Jésus est passé dans ce marché de l'esclavage du péché, des esclaves du péché. Et il nous a rachetés, il a payé le prix afin que nous soyons libérés de l'esclavage du péché, rachetés tout d'abord, déclarés libres et être sauvés. Avoir le pardon des péchés, avoir la vie éternelle comme un don gratuit sans aucun mérite de notre part. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Car vous avez été rachetés un grand prix. Alors, libérés de l'esclavage du péché, nous sommes devenus serviteurs du Seigneur. Et le mot serviteur, le grec, n'est-ce pas, c'est doulos, qui a donné le mot douleur, mais littéralement c'est esclave. Le jour où je suis délivré de mon esclavage, je me rends moi-même esclave du Seigneur Jésus parce que j'ai le désir de le servir. Et le mot esclave est très fort. Ça veut dire que je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à un maître, je suis marqué, certainement scellé par le Saint-Esprit, et donc je suis appelé à me donner au Seigneur. Reconnaissons, bien-aimés, peu importe l'âge, que nous avons parfois peur et nous craignons de nous donner au Seigneur. C'est-à-dire de prendre chaque partie de notre vie, ou peut-être nos craintes, nos inquiétudes, et de tout remettre au Seigneur, ou de faire que notre vie maintenant, elle est faite pour le Seigneur. Nous n'avons qu'une vie à vivre sur terre, pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? C'est une bonne question. Alors, je pense à l'apôtre Paul, qui a écrit en Romains chapitre 12, verset 1 et 2, une conclusion extraordinaire, suite aux 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, où Paul explique le plan du salut de Dieu. C'est extraordinaire, l'Épître aux Romains. Alors, les 3 premiers chapitres, on est tous pécheurs, on est tous perdus, la justification commence à être expliquée, chapitre 4 et 5, la justification par la foi, étant donc justifié par la foi. Et ensuite, chapitre 6, 7, 8, la sanctification. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu m'a affranchi la loi du péché, c'est la sanctification. Et puis, le plan de Dieu pour Israël, chapitre 9, 10, 11. Dieu a un salut individuel et un salut pour Israël, qu'il y a un jour, il rétablira. Et nous le croyons de tout notre cœur. Ça se trouve dans les Écritures. Il me semble assez clairement, ceci dit. Et puis, chapitre 12, il dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, c'est ça, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le mot « raisonnable », dans le grec, c'est « logikos », qui a donné le mot français « logique ». Il est logique, à partir de la connaissance du salut de Dieu en Jésus-Christ, devant ce panorama extraordinaire du plan de Dieu, de s'agenouiller et de dire « Seigneur, maintenant, je te donne ma vie. Tu m'as sauvé, je te donne ma vie. Prends ma vie. » Alors Paul continue, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc déjà, Paul commence à dire « Voilà, Dieu a une volonté, et vous avez peut-être une volonté, mais ce qui est important, en vous conformant à Dieu, c'est de faire sa volonté. » Alors, qu'est-ce que c'est offrir son corps? Ici, il est question d'un corps, un sacrifice vivant. Il faut être vivant en Christ pour s'offrir. Saint, agréable à Dieu, donc quelque chose qui lui est agréable. Qu'est-ce que ça veut dire offrir son corps? Évidemment, ça veut dire tout son être, corps, âme, esprit. Mais quelque part, je pensais cette image, je vous la donne comme je l'ai pensé. C'est vrai que si je donne mon corps, ça veut dire que je donne mes yeux. Donc je demande à Dieu de m'aider à voir ce que Dieu veut que je voie. Que je ne vois que ce que Dieu que je veux que je voie. J'ai des oreilles, merci Seigneur, j'entends, bien que j'entende et j'écoute ce que Dieu veut que j'entende. Ma langue, que je ne dise que ce que Dieu veut que je dise. Ah, Jacques nous dit qu'on a une langue, mais c'est un feu dévorant. Et puis mes mains, que je puisse dire Seigneur, fais que ce que je fais de mes mains, travaille, etc. C'est symbolique, ben, que je fasse ce que tu veux que je fasse. Est-ce que je fais vraiment le travail que Dieu veut que je fasse? Comment est-ce que je travaille? Mes pieds, je donne mes pieds pour aller là où le Seigneur veut. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Dieu a une direction pour moi. Est-ce que je marche dans la direction de Dieu? Vous avez compris l'image. Alors l'idée, c'est de pouvoir renoncer à soi-même parce qu'on ne s'appartient plus. Deuxièmement, j'ai pensé, un bon argument, si argument doit être donné, c'est qu'en fait, est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire Jésus-Christ Seigneur? Quelqu'un a dit un jour, nous devrions donner à Jésus-Christ la même place dans notre cœur que celle qu'il détient dans l'univers. Alors, ça remonte à quelques années. J'ai eu l'occasion, par mes études, de faire une thèse sur l'énergie solaire, et c'était tout à fait au début de cette science ou de cette approche dans les études, voir comment on peut régler des problèmes d'énergie avec l'apport de l'énergie solaire. Savez-vous que le soleil maigrit de 500 milliards de tonnes par jour? C'est quel régime en maigrissant, hein? Puis il en a pour longtemps, hein? C'est un peu plus long pour nous, je trouve, en tout cas dans mon cas. 500 milliards de tonnes par jour. À l'heure actuelle, tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, vous êtes en train de vous déplacer dans l'espace. Saviez-vous ça? 50 mètres par seconde. C'est rapide, hein? Là, juste un instant, vous savez, la Terre, on se déplace, une galaxie dans l'espace. 50 mètres par seconde. Et pourtant, on ne se porte pas trop mal, non? Ça va? Ensuite, l'inclinaison de la Terre. Je vous dis tout ça, pourquoi vous allez voir. L'inclinaison de la Terre, par rapport au plan elliptique du Soleil, c'est 23 degrés 27 minutes. L'inclinaison de la Terre, vous savez qu'elle est inclinée, ce qui donne les saisons notamment. En fait, il suffirait d'une inclinaison d'un degré en plus ou en moins pour qu'on soit tous congelés, tous brûlés. Et j'aimerais, après ces images, ces illustrations, vous lire le texte en Colossiens. Ça va donner peut-être une autre dimension dans notre esprit. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. C'est clair. Il est écrit, tout a été créé par lui. Donc il est l'agent de la création. Pour lui, il est le but de la création. Il est avant toute chose, de toute éternité, c'est Dieu. Et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que ce Dieu qui nous a sauvés, Jésus-Christ, qui est venu s'incarner dans la forme d'un simple homme jusqu'à mourir sur la croix, c'est ce même Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui maintient aujourd'hui le monde par sa puissance, par le logos de sa parole. Ça veut dire que ce Dieu qui m'a sauvé, je dois intégrer cette dimension extraordinaire de toute sa puissance, de sa grandeur, de sa magnificence comme créateur des cieux et de la terre et qui en plus fait que le monde tourne encore rond, j'allais dire. Et les gars, jusqu'à ce qu'un jour, quand il va revenir, la Bible dit qu'il va rouler les étoiles, n'est-ce pas, comme un manteau et créer des nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais c'est ce Dieu qui est descendu s'incarner, qui s'est incarné en Christ. Dieu qui s'est fait homme. Alors, est-ce que nous avons, et on est tellement humain, bien-aimé, est-ce que nous réalisons que nous faisons face à un Dieu tout-puissant créateur et qui serions-nous pour lui résister, ne pas lui offrir notre vie? Jésus lui-même sur la terre, on voit dans l'évangile de Jean, que Jésus s'est rendu constamment dépendant de Dieu le Père. Je ne fais que ce que Dieu le Père m'a dit de faire ou de dire, etc. Je fais les œuvres de Dieu le Père, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu mon Père. On voit une dépendance en tant que fils de Dieu envers Dieu le Père. À combien plus forte raison avons-nous besoin de dépendre de Jésus-Christ et de le reconnaître comme Seigneur? Ça veut dire, dans toute sa puissance, s'incliner pour l'adorer et dire Seigneur. Je t'appartiens, tu es vraiment Seigneur de ma vie. Il y a parfois une polémique, parfois certains disent qu'on peut accepter Jésus comme sauveur, d'autres disent non, on ne peut pas accepter Jésus comme sauveur s'il n'est pas Seigneur en même temps, mais Jésus, le sauveur, il est souvent déclaré Seigneur, et on ne peut pas accepter Jésus qui ne soit pas Seigneur, parce que c'est son titre Seigneur. Alors, est-ce qu'il est vraiment Seigneur de notre vie? Et je pense à ce qu'a dit Charles Spurgeon, qui est très connu, Seigneur de tout, ou Seigneur? Pas du tout. Ça fait réfléchir. En fait, Dieu nous demande d'être entier dans notre consécration. Alors, je pense à un jeune homme qui est une illustration, une anecdote qui est citée dans le livre que j'aime beaucoup, certains le savent ici, Charles Studd, champion de la foi, parce que le Seigneur m'a sauvé au travers de la lecture de ce livre et appelé au ministère au travers de ce livre. Alors, Charles Studd, champion de la foi, un homme sportif en Angleterre, champion du monde de cricket, universitaire, qui ne s'était pas converti encore. Son père converti lors d'un réveil, frappa à sa porte tous les matins. « Charles, es-tu converti ?» Il n'aimait pas entendre ça. Finalement, ils ont invité un pasteur pour essayer d'évangéliser Charles Studd. Ça, c'est des anecdotes que je vous raconte. Lisez son livre, c'est bien mieux. Et puis, Charles s'est arrangé pour lui donner, alors qu'ils allaient se balader à cheval, le cheval le plus fougueux qu'il pouvait trouver en espérant que le pasteur soit désarçonné et qu'il cesse de l'évangéliser. Or, le pasteur était un bon cavalier et il est resté sur sa monture. Il a réussi à convertir Charles Studd, qui est devenu champion de la foi, missionnaire en Inde, missionnaire en Chine et puis en Afrique. Et un jour, il faisait une conférence lors d'un retour d'un voyage missionnaire, et alors il parlait de la plénitude du Saint-Esprit, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir une vie pleine, remplie de Dieu et consacrée à Dieu. Alors ce jeune homme est venu le trouver, écoutez-moi, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, je suis d'accord, mais moi je ne suis pas un chrétien heureux. Ah bon? Alors, Charles Studd a eu cette illustration en tête pour aider ce jeune homme à trouver ce qu'il fallait faire. Il dit, tu vois, ta vie, c'est comme une commode avec différents tiroirs. Et tu as un trousseau de clés et chaque clé correspond à une clé qui ouvre tel tiroir qui est une partie de ta vie. Hein? Il dit, voilà. Mais écoute, voilà, c'est simple. La commode, c'est ta vie. Les tiroirs, c'est chaque domaine de ta vie. Es-tu sûr que tu as remis tout le trousseau de clés au Seigneur? Ou as-tu gardé quelques clés pour toi? Et des fois, c'est une bonne illustration, parce que des fois on dit, Seigneur, prends tout, je te donne tout, mais on garde une clé, et dans ce tiroir-là, c'est écrit « Top confidentiel » entre moi et moi, comme si le Seigneur ne pouvait pas ouvrir le tiroir, il n'a pas besoin d'une clé pour ouvrir tous les tiroirs de notre vie. Et ce jeune homme a confessé tout d'un coup. Il a réalisé dans sa conscience qu'il avait un domaine qu'il n'avait pas donné au Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où il a confessé cela, avec le missionnaire Charles Studd, où il a accepté que Jésus le visite dans ce domaine, où il a abandonné ce domaine au Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit est venue dans sa vie. On est sauvé, mais le canal de la bénédiction peut être obstrué parfois, par certainement le péché d'abord, mais aussi peut-être une insoumission à la volonté de Dieu. Nous ne prenons pas assez de temps, bien-aimés, pour discerner la volonté de Dieu. Nous sommes tellement agités, même dans le ministère, il y a tellement de choses à faire, et on tombe dans l'activisme sans réfléchir ou passer du temps avec le Seigneur, les Écritures, plonger son regard dans les Écritures pour comprendre Dieu et écouter ce qu'il a à nous dire au travers de sa parole. Et puis, alors, pourquoi renoncer à soi-même? Parce qu'on ne s'appartient plus. Deuxièmement, parce que Christ est Seigneur. Et troisièmement, parce que de ne pas se consacrer est un faux calcul. On a lu tout à l'heure, et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Car celui qui voudra sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. J'aimerais vous raconter un témoignage. Après ma conversion, mon frère particulièrement était ami avec un jeune homme avec qui on avait pas mal d'activités, qui était issu d'une famille aisée, parce que propriétaire d'une industrie textile florissante, et c'est plus le cas aujourd'hui, hein, dans la région du Tarn. Et malheureusement, les industries textiles ont souvent fermé. Mais à cette époque-là, c'était florissant, et cet ami, donc Jacques-Paul, vivait très bien, mais alors il aimait beaucoup le luxe. Et je me souviens, me prenait des fois dans sa belle voiture, j'essayais de parler du Seigneur, mais ah, c'était la conduite sport, et puis il avait sa Porsche pour lui, une grosse BMW pour la famille, un beau bateau en Espagne, un bel appartement en Espagne, mais à l'âge de 35 ans, il est tombé malade. Et là, sa famille aurait donné tout l'argent qu'il possédait pour voir Jacques-Paul, leur fils, guérir, mais en fait, il est mort, laissant épouse, magnifique épouse, des enfants, laissant tout sur terre. Et je lui avais parlé plusieurs fois, ce jeune homme, c'est un ami. Et j'ai pensé à ce verset, que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? On ne connaît pas le jour de sa mort. Mais par contre, on sait qu'on doit se préparer. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors vouloir gagner le monde, c'est beau, d'être ambitieux dans la vie, c'est beau. Mais quelqu'un qui oublie que son âme a besoin d'un sauveur, se perd. Autrement dit, vouloir gagner, c'est tout perdre. Mais tout perdre, ce qui semble une perte aux yeux du monde, devient un gain pour Dieu et être à la bonne place. Alors ça me fait penser à l'exemple, et je crois que c'est un exemple pour nous tous, l'exemple de l'apôtre Paul qui a dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour Paul, le fait de connaître Jésus-Christ est une telle connaissance d'excellence que tout le reste lui semblait être comme de la boue. Et littéralement, dans l'original, c'est des ordures. Et qu'est-ce qu'on fait avec les ordures ? On les jette. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit jeter sa vie, son passé, son instruction, mais ça veut dire qu'au regard de l'excellence de la connaissance de Jésus, Jésus devrait nous remplir à tel point qu'on devrait être satisfait de Jésus, point. Et souvent, on a tendance à ajouter ou d'essayer de satisfaire par bien d'autres choses, n'est-ce pas ? Alors, dans notre église, Sophie est là, est présente, elle le sait, il y a un jeune homme chez nous qui était expert comptable, qui a bien réussi, qui travaillait pour son stage, c'est un expert comptable qui lui a proposé d'être son associé. Et notre jeune homme, ben, un jour, il a dit non, il y a des choses qui ne se font pas tout à fait... dans la règle de l'art et de la loi, donc il a refusé d'être associé, malgré une belle situation offerte, et il s'est lancé lui-même, et c'était pas facile au début, mais il a réussi. Mais dans son cœur, il désirait vraiment, quelque part, servir le Seigneur. Et bien, il y a quelques mois, il a tout vendu, lui et sa femme, pour aller à l'école de théologie Vaux-sur-Seine, parce qu'il s'est senti appelé par Dieu. Oh, c'est formidable, ça. Mais tout le monde n'est pas peut-être appelé, chacun en a un appel, je crois, peu importe qui nous sommes. Mais une chose est certaine, que quand Dieu nous demande un pas de la foi, peu importe là où nous sommes, faisons-le. Parce que tourner la face de Dieu qui est la lumière du monde, se détourner pour suivre son chemin, c'est entrer dans les ténèbres. Et je dois dire que moi j'ai la crainte de Dieu de ne pas aller dans les ténèbres. Je désire suivre le Seigneur Jésus et vivre dans la lumière, car c'est de loin le meilleur, n'est-ce pas ? Et pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alors je pense à Paul aussi qui disait « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, un soldat engagé, hein, l'armée du salut, les soldats de Christ, quelque part, à un moment donné, ça demande un prix à payer. Alors sommes-nous prêts à payer ce prix-là. Alors, pourquoi renoncer à soi-même ? Parce qu'on ne s'appartient plus à soi-même, parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que ne pas renoncer à soi-même, c'est finalement un mauvais calcul, c'est perdre ce que l'on veut gagner, et c'est ne pas gagner ce qu'on pourrait gagner en Christ. Ensuite, comment renoncer à soi-même ? Bon, je vais essayer d'être plus court, je ne vais plus regarder le temps, je ne sais plus où je suis là, excusez-moi. Ça ne veut pas dire la mortification. Ça ne veut pas dire l'ascétisme. Il y a des gens, vous savez, aux Philippines, il y a des gens qui se font crucifier chaque année, littéralement, pour souffrir les souffrances de Christ à la croix, comme si on pouvait se sauver. Et au Moyen-Âge, les gens circulaient dans les rues, se faire flageller, il fallait qu'ils expient le péché. Le mot expier, dans l'hébreu, c'est kafar, c'est couvrir. C'est seul Jésus qui peut couvrir le péché. On ne peut jamais couvrir son péché devant la justice de Dieu. C'est le sang qui nous purifie. Alors, Gaudin, un commentateur connu, a dit « Se renier à soi-même, c'est dire adieu à son moi, son ego, c'est-à-dire à sa propre volonté, ses intérêts personnels et temporaires pour prendre les intérêts éternels du Seigneur à cœur. » C'est vrai que on peut vivre temporellement sur cette terre en essayant d'avoir tant bien que mal la communion avec Dieu, un certain confort, ou tout d'un coup dire « Mais je ne m'appartiens pas à moi-même, je vis pour l'éternité. » Et cette perspective de l'éternité change complètement nos motivations de la vie, nos engagements, nos investissements financiers, de temps, de loisirs, etc. Parce que tout d'un coup, on apprend à vivre pour son maître, en pensant à l'éternité. Et notamment, il faut le dire, aux âmes perdues. Une âme perdue qui entre dans l'éternité, qui est perdue, c'est perdu pour toujours. Et c'est terrible de penser ça. Je ne sais pas si vous pleurez pour le salut de votre père, votre mère, votre enfant, un oncle, une tante, votre voisin. Mais il y a de quoi pleurer pour le salut des âmes, parce que l'éternité, c'est très long, ça, le Seigneur. C'est une perdition terrible. Alors, renoncer à soi-même et porter du fruit, c'est tout d'abord mourir à soi-même. J'ai pensé au chapitre 12, versets 24 et 25, l'évangile des Jean qui dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est le même calcul. Calculer pour l'éternité, c'est gagner. Calculer pour aujourd'hui, quelque part, c'est perdre. Personnellement, je ne sais pas vous, mais je ne suis vraiment pas bon pour le jardinage. Et les rares fois où j'ai planté quelque chose, ça a été une catastrophe. Je me souviens, jeune, j'ai voulu planter une plante, une graine, et j'avais tellement hâte que ça pousse, parce que je suis plutôt impatient de nature. Et j'ai pas laissé faire la nature, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré. Et évidemment, j'ai tout détruit. En fait, le principe de la vie vient de la mort, de la graine. Il faut que la graine, sous l'effet de l'humidité et de la chaleur, enfouie dans la terre, meure à elle-même, pour, de cette mort, faire naître une tige, une racine, qui va donner du blé, du maïs, peu importe. Alors, c'est le principe de la mort qui engendre la vie. Et Dieu nous dit que, dans la mesure où on meurt à soi-même, on va porter du fruit et beaucoup de fruits. C'est le principe de la mort qui donne la vie. Et bien sûr, l'excellence de l'exemple type et modèle, c'est la mort de Jésus-Christ, qui par sa mort nous a donné la vie. Et la Bible dit, nul ne vit pour lui-même. Une fois qu'on a compris ce principe de la mort de Jésus à la croix, même si la croix c'est un prix à payer, de porter sa croix dans le sens d'être persécuté à cause de Jésus, ou de suivre selon les exigences du Maître, mais c'est de loin le meilleur dans cette vie sur terre, eh bien c'est de mourir à soi-même. Et on n'aime pas mourir à soi-même, parce qu'on a une forte volonté, c'est votre cas, c'est le mien, on est égoïste de nature, on est orgueilleux, on veut avoir raison, on est rebelle, on discute avec Dieu, ça vous arrive? Moi ça m'arrive de me rebeller des fois, et là j'ai honte, hein, parce que je sais que c'est toujours le Seigneur qui a raison, c'est jamais moi. Et pourtant, dans notre vieille nature, hein, quand Calvin parlait du baptême, il dit oui, la vieille nature, le baptême par immersion, c'est le symbole qu'on plonge la vieille nature dans l'eau, n'est-ce pas? Et qu'on meurt à soi-même et on est identifié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et quand on sort de l'eau, voilà, on est vivant pour Christ. Et Calvin a ajouté, le vieux homme est plongé dans l'eau, mais le coquin, il sait nager. Et c'est vrai que notre vieille nature, elle a tendance à rejaillir. Malgré soi-même, c'est pour ça que Paul disait, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et jusqu'à notre mort, on va lutter avec cela. Alors il y a des fois où on meurt vraiment à soi-même et on est humilié, brisé par des circonstances difficiles de la vie. Et Dieu, dans sa grâce, nous montre qu'il est suffisant. Mais on apprend des leçons qui sont assez dures de la vie parce que Dieu veut qu'on meure à soi-même. Pour que ce ne soit pas toutefois notre volonté qui s'accomplisse, mais la sienne, Jésus au jardin de Gethsémani a dit, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Alors c'est renoncer à ses propres droits légitimes, il y aurait beaucoup de témoignages à donner, mais j'aimerais vous donner un exemple qui me semble être pertinent, c'est celui d'Hudson Taylor. Alors il faut lire la biographie d'Hudson Taylor. Qui c'est qui l'a lu ici? Alors les autres, précipitez-vous à n'importe quelle bibliothèque ou de prêt ou d'achat dans une librairie chrétienne, achetez s'il vous plaît la biographie de Saint Taylor, et ce serait bien que vous ajoutiez celle de Charles Studd s'il vous plaît. Voilà. Donc Hudson Taylor était étudiant en médecine en Angleterre et il avait une vie très frugale parce qu'il n'était pas bien riche, il devait payer ses études, son logement, sa nourriture, etc. Et un jour, il calcule ce qui lui reste, et c'était vraiment tout ce qu'il pouvait lui rester pour finir le mois. Et quand on est étudiant, des fois, ben on vit des vaches maigres. Et donc, il avait une dernière pièce qui lui restait, une couronne, appelée à ce moment-là la monnaie anglaise, il l'a mis dans la poche, et puis il part faire la tournée de ses visites. C'était un homme avec un grand cœur pour les gens, beaucoup d'amour. Et il visite un couple. Et là, le monsieur lui supplie Hudson Taylor de lui donner de l'argent pour acheter des médicaments à sa femme souffrante. Il dit, il faut vraiment sauver ma femme. S'il vous plaît, aidez-moi à lui acheter des médicaments. Alors Hudson Taylor met la main dans la poche. Il tourne dans sa main la fameuse couronne, la pièce. Il commence à réfléchir, oui, mais qu'est-ce que je vais manger d'ici la fin du mois? Comment je vais payer mes études et payer mon logement, etc. Et puis bon, le Seigneur lui a parlé. Il a sorti la pièce. Le monsieur le suppliait. Hein. Il a sorti la pièce et dit, voilà, allez acheter des médicaments pour votre femme. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que parce qu'un jour John Taylor a donné tout ce qu'il possédait, un jour Dieu lui a donné la Chine. Il a prié dans sa vie de missionnaire que Dieu envoie des missionnaires, et c'était au compte-goutte au début, lui-même, personne ne voulait l'embaucher, il n'y avait aucune mission qu'il voulait de John Taylor. Pour aller en Chine. Vous savez, il s'habillait comme chinois, coiffé comme des chinois, etc. Ça vous laisse pas indifférent, quand même, cette histoire de chinois. Et finalement, Hudson Taylor, une fois, a prié pour que Dieu envoie 100 missionnaires dans l'année. Imaginez une mission moderne aujourd'hui. Un homme, un directeur de mission, un missionnaire qui se lève et qui passe dans les églises, dit, je demande au Seigneur d'envoyer 100 missionnaires dans le champ missionnaire de la Chine. Certains missionnaires partaient avec leur comment on appelle ça, coffin, leur cercueil. Merci professeur d'anglais. Leur cercueil, le mot me venait pas en français. Le cercueil, ça faisait office de valise parce qu'ils étaient prêts à mourir sur place comme missionnaires. Vous savez, on n'a pas trop de trembles comme ça aujourd'hui. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas le billet de retour quand ça aille mal, le Skype pour parler à sa famille, etc. Et je peux vous dire qu'il y a eu 100 missionnaires qui sont partis. Alors quelqu'un frappait à la porte de John Taylor, je dis, oh, John Taylor, vous êtes un grand homme de Dieu, vous avez une grande foi. Et John Taylor, modestement, dit, écoute frère, assois-toi ici. Là. Je vais te dire, moi j'ai une petite foi, mais j'ai un grand Dieu. Et John Taylor, parce qu'il a donné tout ce qu'il possédait, a appris une leçon de Dieu. Que Dieu pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Ça fait penser au petit garçon avec quelques pains, quelques poissons. Et les disciples ont dit au Seigneur, mais on n'a rien à nourrir cette foule. Il dit, allez, trouver de la nourriture. Et là, ils étaient provoqués parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut le Seigneur? On n'a pas assez d'argent pour nourrir tout ce monde. Et où on va trouver à cette heure-ci de la journée du pain et du poisson pour nourrir tout le monde? Mais évidemment, Jésus les testait. Et puis quelqu'un a dit un peu plus courageusement, il y a ce petit garçon qui a quelques pains, quelques poissons. Il est venu là. Vous savez ce qu'a fait Jésus? Il l'a brisé. Et tout ce qu'avait ce petit garçon, en fait, c'était rien devant la foule. Mais par ce tout donné, c'est devenu un rien que Jésus a brisé, qui est devenu un tout pour toute la foule. Quand on donne le peu que l'on a, et parfois Dieu le brise, ce qu'on chérit le plus, qui semble être légitime dans nos vies, Dieu le brise. Mais si on est volontaire, parce que Dieu ne nous force jamais dans nos vies. Et ce peu qu'on lui donne, Dieu est prêt à le multiplier. Mais qu'est-ce qu'on est fou, bien-aimé, de résister à Dieu. Alors que se donner à Dieu, c'est le meilleur des calculs pour le meilleur des résultats sur cette terre et dans ce monde et dans l'éternité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un missionnaire qui s'appelait Henry Martin. Il a dit, « Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme consistant entièrement dans l'accomplissement de ta volonté. » C'est une trempe d'homme qui jouissait de la présence de Dieu, qui ne voulait pas perdre cette communion intime avec Christ. N'est-ce pas, et profiter peut-être de la vie. Alors aujourd'hui, il y a tellement de tentations, tellement de choses qui peuvent nous égarer dans le temps et nous prendre tellement de temps. Télévision, bon, pour pas mentionner, ordinateur, smartphone et tablette, enfin, tous les trucs qui me dérangent à moi, mais parfois, parce que je suis pas un technicien et ça complique ma vie, mais c'est vrai qu'on est tellement prisonnier d'habitude. Et réfléchissons, je vous invite vraiment à réfléchir sur votre emploi de temps. Est-ce que vraiment, dans tout ce que vous faites, vous prenez plaisir en Christ? C'est une bonne question. On n'a qu'une vie à vivre, pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Ensuite, non seulement c'est mourir à soi-même, renoncer à ses droits légitimes, et puis c'est renoncer à sa propre volonté, j'ai déjà mentionné, à l'exemple de Jésus qui a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Jésus avait comme un cadran, une horloge divine, éternelle, et il prenait plaisir à dépendre de Dieu le Père. On voit dans l'évangile de Jean comme Jésus dépendait de Dieu le Père. D'ailleurs, il nous a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure beaucoup de fruits, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, j'ai marqué dans mes notes, se perdre en Jésus-Christ, c'est finalement retrouver la vraie vie. Comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors j'aimerais terminer cette partie de renoncer à soi-même par une anecdote qui nous est arrivée, Louis et moi, il y a quelques années au Canada. Au Canada, au Québec, c'était assez facile de parler du Seigneur. Et c'est, dans l'esprit québécois, très normal, quand on a sympathisé avec quelqu'un, même qu'on a rencontré ici et là, tu veux bien boire un café chez moi un jour, là, tiens, on prend rendez-vous. D'accord. Alors c'est arrivé, le rendez-vous a été donné, et j'attendais une personne à la porte, et je me réjouissais de passer cette soirée pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il sonne, je vais à la porte, surprise. C'était pas une personne, c'était deux personnes. Bon, bah, c'est l'occasion, au lieu d'un évangéliseur, peut-être d'apporter la bonne nouvelle à deux personnes en même temps. Mais il avait, cet ami qu'on avait invité, une attache case, enfin une mallette. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il vient me vendre? Moi qui voulais annoncer l'évangile, il va vouloir m'embarquer dans quelque chose. Bon, on sympathise, bonjour, on boit le café. Puis d'un coup, il me regarde, il me dit, Michel, j'ai remarqué, t'as beaucoup d'enfants, les enfants passaient par-ci, par-là. Je dis, oui, j'en ai 6, ah bon? Il me dit, mais ta voiture devant la maison, qu'est-ce qu'elle est petite? Et comment fais-tu? Ben, des fois, on est obligé de faire 2 allers-retours, hein, 6 enfants. Ah bon? Il me dit, écoute, Michel, je crois que ça te prendrait une plus grande voiture. Je dis, oui, c'est vrai. Après, il regarde la maison, il me dit, Michel, ta maison, elle me semble pas qu'elle est si grande que ça. Ça prendrait une plus grande maison. Je dis oui, oui, pourquoi pas, bon, une grande maison. Puis il continue et finalement, il est en train de me dire par différentes choses que si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux. Et puis il me dit, tu pourras acheter un bateau. Et alors je lui dis, non merci, j'ai le mal de mer. Tu pourrais faire des voyages, je dis oui, etc. Tout un tas de trucs, puis il me dessine un cercle comme ça, avec des espèces de pointes de tarte, vous avez compris, et le sigle au milieu du dollar. Je me dis, mais où est-ce qu'il va en venir? Jusqu'à ce qu'il découvre, n'est-ce pas, son jeu. Il me dit, voilà, je fais partie d'un système de chaîne de vente de produits à mouer. Peut-être vous connaissez ça, je ne sais pas. Voilà, votre frère se marre là, il sait ce que c'est. Alors, plus vous avez de disciples d'Amway sous vos ordres, plus vous gagnez. Et ça fait rêver parce que si ça va, vous avez un pourcentage de toute vente en dessous de vous. Par contre, ceux qui sont en dessus, ils se sucrent sur vous. Mais c'est le principe de la chaîne. Alors, il m'explique ça et tout d'un coup, je le regarde, c'est venu naturellement. Et je dis, mais tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être plus heureux. Il me regarde. Quelqu'un qui a pas besoin de plus de bonheur, ça n'existe pas. Je dis, non, je vis dans le contentement. Je suis pas sûr qu'il ait compris l'expression biblique, le contentement. J'ai dit, regarde, ma femme là, elle m'aime et je l'aime. C'est mon bonheur. Regarde nos enfants comme ils sont heureux à la maison. Et on les aime, ils nous aiment. Et on est une famille, ils sont en bonne santé, merci Seigneur. Mais c'est notre bonheur cela. Puis tu vois, en plus, on aime le Seigneur. On aime le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il écoutait, et puis il nous rend heureux. Et là, il voyait notre joie dans le Seigneur. Alors moi, j'ai pris à mon tour une feuille, je lui ai mis Jésus-Christ. J'ai mis Jésus-Christ au centre, et je lui ai dit, voilà, toute ma vie est centrée sur Jésus-Christ. Et puis, j'ai eu la joie, non pas d'adhérer à Moué, mais de lui prêcher Wanoué. C'est pas pareil. Voilà. Et cet homme m'a fait réfléchir après, je me suis dit, ouais, c'est quand même un bel appât de dire que tu peux améliorer ta vie par l'argent. Hein? Moi, j'ai un adage, si l'argent ne fait pas le bonheur, ben donnez-le-moi, hein, c'est simple. Hein? Mais ceci dit, ça n'arrange pas tout. L'argent n'achète pas le bonheur, c'est fou, on le sait. Mais cette illustration m'a fait penser à quelque chose suite à cet entretien avec cet homme. C'est une pratique que je fais régulièrement dans ma vie. Prenez une feuille de papier, faites un cercle comme une tarte, peut-être vous mangez des bonnes tartes ici aussi, et puis mettez Jésus-Christ au centre et prenez chaque partie de votre vie. Ma relation conjugale avec mes enfants ou avec mes parents, ma relation professionnelle, mes études, mes ambitions, mes loisirs, mon temps, mon argent, ma relation avec les voisins. Et vous trouvez des passages bibliques qui correspondent exactement à ce que Dieu veut, c'est clairement exprimé. La volonté de Dieu est largement exprimée dans les Écritures. Il y a des cas spéciaux, il faut chercher Dieu, la volonté de Dieu, la direction de Dieu, et Dieu est prêt à nous éclairer aussi. Merci Seigneur. Mais majoritairement, la volonté de Dieu est clairement exprimée. Et là, vous devez vous engager, suite à la lecture des Écritures, comme dit Jacques, à ne pas être un auditeur oublieux, à dire Seigneur, j'intègre ta parole dans ma vie. Ta parole dit cela sur tel ou tel sujet. J'étudie ta parole dans telle ou telle partie de ma vie. Montre-moi ce que tu veux. J'étudie la parole et maintenant je me soumets à ta parole. Quand on met Jésus-Christ au centre, ça bouscule. Les choix pour le mariage, l'emploi de notre temps, notre avenir, choix de carrière, la façon dont Dieu utilise nos dons dans l'Église et ainsi de suite. Mais vous savez, est-ce que c'est pas de loin le meilleur d'avoir Jésus-Christ au centre de notre vie? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est un Père tellement attentif à ses enfants. Rien ne lui échappe. Il est notre maître souverain. C'est pas un dictateur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui a donné sa vie par amour et qui continue à nous aimer du même amour qu'il a poussé à la croix. Donc nous pouvons toujours aller à lui et nous réfugier à lui. Renoncer à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appartient plus à soi-même, corps, âme et esprit. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et parce que c'est un faux calcul de vouloir gagner le monde, c'est de perdre. Comment renoncer à soi-même? Mais c'est mourir à soi-même, abandonner ses droits légitimes, soumettre sa volonté au Seigneur Jésus-Christ et le laisser en dépendance avec lui, vivre au travers de nous pour accomplir sa volonté, mais aussi nous activement se soumettre à ses commandements qui sont si nombreux dans la parole. Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, je fais de ta loi les délices de mon cœur. Prions s'il vous plaît. Ô Seigneur, notre Père, nous réalisons combien chacun dans notre vie, nous avons besoin de nous consacrer ou reconsacrer dans tel ou tel domaine dans notre vie. Alors Père, je te prie, pendant que nous avons, ce moment de recueillement, que tu nous visites, qu'on ne soit pas juste chatouillé par une parole, mais quelque part, si tu veux bien nous aider à voir clair dans notre vie, et peut-être y a-t-il un pas que l'un ou l'autre doit faire ce soir, moi le premier, aide-nous, Seigneur, humblement, nous te le demandons, d'aller plus loin avec toi, de croître, afin de t'honorer, afin que notre vie porte du fruit, encore plus de fruits, beaucoup de fruits, afin que toi, Père, tu sois glorifié dans ton Église et dans ce monde perdu. Nous te le demandons en ton nom. Seigneur, je te prie peut-être pour celui ou celle qui aura fait une prière ou qui gardera dans son cœur ce message pour le mettre en pratique dans un aspect de ta parole. Merci, Seigneur, de toucher nos cœurs et de répandre ta semence dans nos cœurs et de nous y soumettre. Aide-nous, Seigneur. Ça, c'est notre part à te glorifier. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse et voilà, je laisse la place à qui de droit.